Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Un peu plus de 15% à midi, le taux de participation au second tour des municipales est en baisse par rapport au premier tour il y a 3 mois. Qu'en sera-t-il ce soir? C'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin qui concerne aujourd'hui un peu moins de 5000 communes, mais ce sont pour la plupart les plus grandes. Et dans quelques-unes d'entre elles, le résultat reste très incertain. Soutenir la démarche des 150 citoyens de la Convention pour le climat, 76 chefs d'entreprise s'engagent à s'emparer de leurs propositions et ils appellent l'ensemble des entreprises à faire de même. Dans ce journal également, l'épidémie de coronavirus qui flambe dans le sud des États-Unis. Le confinement a été arrêté bien trop tôt, nous dit un virologue. 5 personnes, dont un mineur, en garde à vue après une soirée festive non autorisée et qui a mal tourné sur l'esplanade des Invalides à Paris. Et puis la dernière messe du cardinal Barbarin à Lyon, après 17 ans à la tête de l'archevêché. Il a fait ses adieux aux fidèles, sans allusion aucune à l'affaire Prénat.
France Inter.
L'essentiel, c'est de participer, mais les électeurs ont-ils le sens de l'essentiel? Le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention record de 56% en moyenne. Elle pourrait être encore plus forte ce dimanche pour le second tour, en plein état d'urgence sanitaire. À midi, le taux de participation était donc encore très bas, à peine un peu plus de 15%. Jean-Philippe Dogneau, vous êtes au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. C'est donc inférieur pour l'instant aux chiffres du premier tour.
Oui, on peut même parler d'abstention record avec 84,71%. C'est 3 points de plus qu'au premier tour le 22 mars. Et c'est même, si on compare aux autres second tours des précédentes élections municipales, 4,5 points au-dessus de 2014 et 8 points de plus d'abstention qu'en 2008. Alors, sans surprise, ce sont dans les départements ruraux qu'on s'est le plus mobilisé ce matin. En Corse du Sud, participation de 32%, Cantal 30%, l'Allier, la Lozère et les Landes. Et puis en bas de tableau, j'ose dire, les départements à forte densité de population, c'est là où on a le moins voté. Les 7 départements de la région parisienne, 7% de participation en Seine-Saint-Denis ce matin, 8% à Paris seulement, et entre 9 et 14% dans les 5 autres départements de la région Île-de-France. De même qu'en Ille-et-Vilaine, en Gironde, en Loire-Atlantique, dans le Nord et en Haute-Garonne. Le taux définitif de la participation au premier tour était, je vous le rappelle, de 44,64%. On risque ce soir d'être un taux inférieur. Les prochains chiffres de participation ici au ministère de l'Intérieur seront communiqués à 17h.
Jean-Philippe Dogneau, place Beauvau. Si l'on s'en tient au sondage, effectivement, 6 Français sur 10 pourraient ne pas aller voter ce dimanche. Alors même que l'élection n'est pas jouée, rappelons-le, dans la plupart des grandes villes, soit 15% des communes de France à peu près, ce qui fait quand même 16,5 millions d'électeurs. Toutes les précautions ont été prises, bien sûr, pour le respect des consignes sanitaires. Illustration dans ce bureau de vote du 14e arrondissement de Paris, où s'est rendu Thibault Lefèvre.
Dès l'entrée du bureau de vote, masque et désinfection des mains obligatoires.
Bonjour madame, un peu de gel.
Et comme Françoise, l'immense majorité des électeurs se plie au protocole.
Il y a le masque, il y a le gel sur les mains, il y a le stylo dans la poche. Je crois que ça va, j'ai la panoplie. Je pense que c'est bien organisé, c'est bien, ça encourage à voter. Il ne faut pas qu'on ait trop peur non plus d'aller voter. Et puis, ce n'est pas plus dangereux que d'aller faire ses courses ou d'aller travailler.
À l'intérieur du bureau, tout est évidemment fait pour rassurer les électeurs.
J'ai un masque, j'ai une visière, j'ai des gants. On a du produit désinfectant et régulièrement, on va dans les cabines pour passer un petit coup de lavette.
Anne-Sophie est agent de bureau de vote pour la mairie de Paris. Il y a un peu plus de 3 mois, elle était déjà en poste pour le premier tour.
Là, il y a moins de personnes qu'au premier tour, bizarrement, alors que finalement, le grand risque était plus au premier tour, alors que là, il y a plus de sécurité, on voit moins de personnes. Alors peut-être que les gens ont un petit peu peur de venir, sachant pas trop quelles allaient être les dispositions mises pour préserver la santé.
Moins de participation donc, même si pour la première fois, un électeur peut être porteur de 2 procurations au lieu d'une habituellement.
À voter.
Un dispositif qui, selon le président du bureau de vote et ses assesseurs, est finalement très peu utilisé depuis ce matin.
Et puis il faut rappeler que les procurations mentionnant le scrutin initialement prévu le 22 mars sont valides aujourd'hui 28 juin. Il y a quelques instants, le chef de l'État masqué, bien entendu, a voté au Touquet en compagnie de son épouse. Le suspense est donc total dans au moins une bonne dizaine de grandes villes où parfois trois candidats, voire quatre, se font face. Seront également élus ce dimanche les conseils communautaires de plus d'un millier de communautés de communes, métropoles ou agglomérations. Résultats et analyses ce soir sur France Inter à partir de 20h. Émission spéciale municipale à suivre dès 19h15. Ça ne pourra pas être sur BFM en tout cas, puisque la soirée électorale ne devrait pas être couverte par la chaîne info du groupe Altice. La Société des journalistes annonce qu'en raison du mouvement social qui se poursuit contre les suppressions de postes, les salariés de BFM ne pourront pas ce soir remplir leur mission. Des municipales qui ne seront pas sans conséquences sur la suite des événements et les choix que doit annoncer notamment le président de la République, en partie après avoir reçu demain à l'Élysée les membres de la Convention citoyenne sur le climat. Laurence Tubiana, qui co-présidait au débat, dit attendre ce matin du président une réponse sérieuse. Et comme elle, quelques 76 chefs d'entreprise de différents secteurs, dont les patrons de Danone, d'Actes Sud ou de Biocop, ont signé ce matin une tribune dans le journal du dimanche pour rappeler à soutenir la démarche des 150 citoyens pour le climat. Et en s'adressant à eux, nous nous emparerons de vos propositions et les inscrirons sur une feuille de route en cohérence avec nos responsabilités sociales, écrivent les 76 signataires de ce texte, en engageant toutes les entreprises à faire de même. Parmi eux, l'ancien président de Système U, Serge Papin, aujourd'hui conseiller d'entreprise.
Le monde économique a une conscience forte de l'urgence, de la nécessité d'accompagner ces transitions, qu'il faut mettre un pied dans ce qu'on pourra appeler le bien commun. Le projet économique doit se conjuguer avec l'intérêt général. De toute façon, il n'y aura plus pour un acteur économique ce qu'on pourra appeler de leadership s'il n'allait pas s'engager dans ces transitions. Parce que l'entreprise, on dit quel est le problème, eh bien, les chefs d'entreprise ont envie de dire, on va être aussi la solution. Et c'est ce mouvement-là qui est intéressant. Par exemple, s'affranchir des énergies fossiles. On sait bien que, par exemple, tout le secteur de la logistique, le déplacement des marchandises, c'est un secteur très important en empreinte carbone. Il y a des possibilités aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en route. Passer à l'hydrogène, bon, voilà un engagement qui me paraît intéressant. Après, il y a toutes ces entreprises qui, dans le cadre de la loi Pacte, essaient de réconcilier leur raison d'être. Dans leur raison d'être, il y a les engagements sur les transitions, que les collaborateurs ont besoin aussi de sentir que leur entreprise est engagée sur ces terrains-là. Et si je puis dire, ça fait aussi la raison d'y venir des clients derrière. Donc on a là un cercle vertueux qui est concret.
L'ancien patron de Système U au téléphone de Laurent Kramer.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
5 personnes, dont un mineur interpellé, 9 policiers blessés. C'est une soirée improvisée qui a mal tourné sur l'esplanade des Invalides hier à Paris. Mauvaise inspiration de quelques jeunes qui avaient appelé sur les réseaux sociaux à un rassemblement festif avant d'être débordés par la foule. Une foule passablement alcoolisée qui a dû être évacuée par les forces de l'ordre, non sans mal, Charlotte Piret.
Il était environ 22h30 lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur l'esplanade des Invalides pour y trouver quelques 2000 personnes ayant répondu à une discrète invitation sur les réseaux sociaux, nom de code Projet X, en référence au film américain du même nom. L'ambiance est au départ plutôt calme, jusqu'à ce que, selon la préfecture de police de Paris, les policiers essuient des slogans hostiles aux forces de l'ordre, mais aussi et surtout des tirs de projectiles. La majorité des fêtards a alors quitté les lieux, mais certains reviennent par petits groupes, très mobiles, souvent aussi très alcoolisés. S'ensuit un jeu de chat et de la souris, jet de projectiles contre usage de gaz lacrymogène. 2 véhicules de la police ont été endommagés. Le commissariat du 7e arrondissement qui se trouve juste à proximité de l'esplanade a été visé et 9 policiers blessés, dont un transporté à l'hôpital, toujours selon la préfecture de police de Paris. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 2h du matin environ. 5 jeunes ont été interpellés, dont un adolescent encore mineur. Tous ont été placés en garde à vue, toujours en cours actuellement selon le parquet de Paris, pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Charlotte Piret, à Lyon, il célébrait ce matin sa dernière messe après 17 années à la tête de l'archevêché. Le cardinal Barbarin a fait ses adieux aux fidèles dans sa, entre guillemets, sa cathédrale de la capitale des Gaules, d'ailleurs limitée à 400 personnes ce matin pour raisons sanitaires. Après sa relaxe en appel dans l'affaire Préna en janvier dernier, le cardinal Barbarin avait démissionné de ses fonctions d'archevêque en se disant très heureux du retour au calme après la tempête. Christophe Vincent assistait ce matin à la cérémonie.
Très ému, Philippe Barbarin traverse une dernière fois la primatiale Saint-Jean. Dans son homélie, pas un mot pour les victimes du père Préna. Le cardinal s'adresse d'abord à ses soutiens.
Un grand drame était arrivé dans le diocèse de Lyon. Il fallait que je porte cette souffrance incontestablement. Et en même temps, je savais que je n'étais pas seul. Et qu'il y avait des frères et des sœurs derrière. Et j'ai donc là aussi un très grand merci à dire, parce que je pense que c'est grâce à vous que le Seigneur a réussi à me tenir debout.
Dans les 350 fidèles autorisés à rentrer pour cause de virus, beaucoup d'inconditionnels.
J'ai beaucoup d'estime pour le cardinal Barbarin. J'ai un petit peu des regrets.
Et c'est pour exprimer mes remerciements pour tout ce qu'il a fait pour le diocèse, son courage aussi.
Ce que disait le cardinal, c'est qu'il ne pouvait pas, à chaque fois qu'il se trouvait dans une église, répondre à ceux qui disaient qu'il avait été formidable et répondre à ceux qui disaient qu'il avait été une ordure. C'est pas son métier.
Mais on entend aussi des voix discordantes.
Ah oui. Qui laisse la place à quelque du sang neuf, à quelque chose de mieux.
Les prêtres de base en ont plus qu'assez. Il a été nocif.
Je trouve ça scandaleux qu'on fasse une cérémonie pour Mgr Barbarin qu'il n'a pas dénoncé. C'est quand même ignoble.
Pas de poste au Vatican pour le cardinal. Il devient aumônier des Petites Sœurs des Pauvres en Bretagne. Le pape lui confiera juste des missions au Proche-Orient et n'a toujours pas nommé son successeur. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
À l'étranger, on vote ce dimanche en Pologne pour une présidentielle très incertaine. En Irlande, après 4 mois de tractation, les partis coalisés au pouvoir ont trouvé un modus vivendi. Les deux partis de centre-droit et les Verts fourniront tour à tour le Premier ministre. Dans l'immédiat, c'est le chef du Fianna Fáil, Michael Martin, qui va diriger le pays, Antoine Gignot.
Ministre de l'Éducation, de la Santé, des Entreprises, puis ministre des Affaires étrangères, Michael Martin, c'est dans les années 2000 l'étoile montante de la politique irlandaise. L'homme qui fait progresser le secteur bancaire, surfe sur l'économie florissante du tigre celtique et fait de l'Irlande le premier pays au monde à interdire le tabagisme sur le lieu de travail. À l'époque, les médias le présentent déjà comme un futur premier ministre, mais la crise économique le rattrape, le plan d'aide internationale et les mesures d'austérité drastiques font imploser le gouvernement. Il démissionne en 2011, prend la tête du Fianna Fáil et enregistre la pire défaite jamais vécue par un gouvernement sortant aux élections anticipées. Les années qui suivent ressemblent à une longue reconstruction. Michael Martin transforme le parti d'opposition, met en avant la santé, le logement, le problème des sans-abri et revient sur le devant de la scène. Fils de boxeur et conducteur de bus, il le dit lui-même, le ring et la vie politique présentent quelques similarités. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
En Islande, un résultat qui fera rêver beaucoup de candidats. 92% des voix pour le président sortant, Gudni Johannesson, ancien prof d'histoire, auquel s'opposait un candidat populiste. La participation, quoi qu'en baisse, reste également très élevée à 67%. Aux États-Unis, les suites du mouvement Black Lives Matter, qui atteint cette fois l'ancien président Wilson, Woodrow Wilson, dont le nom sera retiré par la prestigieuse université de Princeton, retiré de l'une de ses écoles et d'une résidence étudiante. Wilson, vu d'ici, c'était surtout un militant de la paix, à l'origine de la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU en 1919. Mais ce qui ressort aujourd'hui pour les Américains, c'est son racisme prononcé. Président des États-Unis de 1913 à 1921, il avait notamment remis en place une ségrégation dans l'administration fédérale. Des États-Unis qui sont surtout très inquiets par ailleurs de l'épidémie de coronavirus qui continue sa course, notamment dans les États du Sud, au Texas, en Floride, où de nouveaux records, si on peut dire, ont été enregistrés. Plus de 9500 malades et 24 morts sur une journée en Floride. Pour le professeur Bréchaud, ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, président du Global Virus Network, le confinement a été arrêté bien trop tôt. Il l'a dit à Matteo Maestracci sur France Info.
Il ne s'agit vraiment pas d'une seconde vague, il faut bien le comprendre. C'est simplement la poursuite de la première vague qui a été mal contrôlée. L'explication est malheureusement très simple. C'est qu'on a arrêté le confinement alors que l'épidémie n'était absolument pas contrôlée, et ce, dans plusieurs États des États-Unis.
Pour vous, qui êtes expert et qui vivez sur place en temps normal, l'expression « situation hors de contrôle », elle vous semble appropriée ?
C'est toujours très difficile. Je pense qu'avec ce virus, il faut rester très humble parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais maîtrisées. Mais je crains que la réponse soit oui. Maintenant, il y a un point qui est important à dire. La majorité des nouvelles infections, pour l'instant, touchent des gens jeunes. Et le point clé en Floride, évidemment, c'est le risque de transmission dans les maisons de retraite et à des personnes âgées. Jusqu'à présent, ils ont réussi à contrôler ça. Si tous ces nouveaux cas d'infection se transmettaient à des personnes âgées dans les maisons de retraite, eh ben, on a une situation qu'on connaît, quoi, qui est terrible.
Le cap des 2,5 millions de contaminations a été franchi aux États-Unis où l'épidémie a fait à ce jour plus de 125 000 morts. En France, ils sont arrivés, ils arrivent. Les touristes ne sont pas aussi nombreux qu'à l'accoutumée en cette fin juin, loin de là. Mais ce n'est pas non plus le grand désert que les professionnels du tourisme pouvaient craindre. On dira que les hôtels et campings ne sont pas à moitié vides, mais à moitié pleins. Comme ici à Merville, Franceville, en Normandie. Reportage d'Esteban Pinel.
Jour d'arrivée au camping, un coup d'œil sur les plaques minéralogiques pour se rendre compte que les Français sont grandement majoritaires, les Normands même, comme Sylvain, venu de l'heure.
On a envie de bouger, quoi. On s'ennuyait pas chez nous, mais on avait envie de voir d'autres têtes, de bouger un peu, quoi. Et de retrouver le Calvados.
La moitié des emplacements a trouvé preneur. Sur l'un d'eux, Olivier, habitant de la Somme, qui a retrouvé son camping et son cottage, mais...
Une ambiance un peu bizarre, je trouve que les gens ont du mal à se dire bonjour.
La crise a modifié les habitudes, alors les vacances peuvent-elles dissiper la peur? Réponse à un point d'eau avec Jean-Pierre, un Haut-Normand.
On va pas non plus se masquer la figure dans le camping et tout, faut être confiant, faire confiance au camping.
Donc quand madame dit d'aller chercher de l'eau?
J'y vais, bah bien sûr, sans problème.
Au détour des allées, on trouve quand même quelques étrangers. D'habitude, en juin, ils représentent 80% de la clientèle. Les frontières s'ouvrent lentement. Agnita et son compagnon allemand ont sauté sur l'occasion de venir en Normandie.
We heard that we could travel to France.
On a entendu dire qu'on pouvait venir en France après le 15 juin. Donc le 16, on est parti. La Normandie est une bonne destination pour un séjour de 3 semaines.
Just the right distance for approximately...
On adore la France. Peu importe où nous allons, nous y sommes heureux.
We are. We're always happy to be here.
Le camping reprend vie au rythme du déconfinement européen, avec désespoir, mais sans grande visibilité sur l'été.
En vacances ou pas, c'est le premier dimanche au cinéma depuis le déconfinement et la réouverture des salles. On peut donc en profiter, après avoir été voté ou avant, en profiter pour voir Benny, un film de Nora Finchit, qui raconte l'histoire d'une fillette de 9 ans à l'enfance difficile. Une fillette et un film qu'on n'est pas prêt d'oublier si l'on en croit Eva Bettan, et il faut toujours croire Eva Bettan.
Ange puis démon en une seconde. Benny rit, s'amuse, mais elle peut aussi hurler et tabasser. Benny a 9 ans. Aucune définition n'est donnée de son trouble du comportement. Le film n'est pas l'étude d'un cas médical, ni celle d'un cas social. Rien à quoi nous raccrocher. Alors on capte des bribes. Une mère qui a jeté l'éponge. Probablement des violences subies dans la prime enfance. Mais ces bribes n'auront pas l'effet rassurant de l'explication. Et Benny est donc sous la responsabilité de la société qui doit faire avec elle. Le portrait qui est fait des services sociaux n'est pas à charge. On est même frappé par leur acharnement à rechercher pour cet enfant une solution entre hôpital psychiatrique et foyer d'accueil qui, l'un après l'autre, déclarent forfait. La réalisatrice a l'audace de refuser la toute-puissance de la fiction qui mettrait de l'ordre dans ce chaos. La caméra suit Benny, mais sans cacher que l'empathie ne suffira pas. Alors nous sommes, nous spectateurs, placés dans la même position d'impuissance que tous les autres. Il peut exister, il existe donc des enfants incasables.
Benny qui a remporté le prix du meilleur premier film à la dernière à Berlinade. Allez, juste un petit bye-bye pour terminer.
Carrefour de l'Odéon.
Eh oui, Frédéric Lodéon tire un trait ce dimanche sur sa carrière radiophonique après 28 ans sur France Inter et puis ses dernières années sur France Musique. Il présentera tout à l'heure de 14h à 16h son tout dernier Carrefour.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai la brillante, toujours très jeune pianiste Lise de la Salle qui a commencé...
Voilà, ça c'était en 2014 sur France Inter. Lodéon a été violoncelliste et chef d'orchestre avant de rejoindre Radio France en 92. Il a su décloisonner la musique classique pour l'ouvrir au public le plus large. Frédéric Lodéon qui raccroche donc ce dimanche à 68 ans. Sincère salutation.